Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans Au fil des pages aujourd'hui, nous allons évoquer le souvenir de héros de la Seconde Guerre mondiale, ces 218 militaires français évadés d'Allemagne par l'URSS. Pour évoquer cette odyssée, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Louis Crémieux-Briac, qui en est l'un des derniers survivants. Monsieur Crémieux-Briac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à Canal Académie, un peu difficilement, dans nos locaux. Il faut dire que l'Académie des sciences morales et politiques vient de décerner à votre ouvrage un prix qui est le prix Eugène Salvant, que vous avez reçu sous la coupole récemment, un prix annuel destiné à récompenser des actes de courage, de dévouement ou de sauvetage. Et ce sont ces actes que vous relatez dans votre ouvrage « Prisonniers de la liberté, l'odyssée des 218 évadés par l'URSS 1940-1941 » dans la collection « Témoins » chez Gallimard. Cet épisode avait été évoqué déjà dans certains mémoires de guerre. Vous allez nous dire lesquels et qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre le récit de manière plus globale et sans doute plus complète, je suppose.
En effet, le général Billotte, le général Branet et le général de Boissieu avaient rappelé cet épisode auquel ils avaient participé dans leur propre mémoire. Mais il se trouve que 60 ans après, hélas, d'une part, j'ai retrouvé des notes que je croyais tout à fait oublié, que j'avais écrite dans les camps soviétiques. Et d'autre part, j'ai obtenu au prix de 4 ans d'efforts douloureux et tenaces la communication d'un certain nombre de documents des archives de police soviétique.
Ce qui est ouverte enfin. Enfin, oui. Que vous avez pu.
Okay. Oui, oui.
Ça veut dire que vous vous êtes rendu sur place,
on les a communiqués
en France.
Oui, oui, à travers des intermédiaires, l'envoi de dollars en sous-main et de 5 de Chanel, j'ai obtenu le.
Voilà comment on obtient des renseignements. De vous les aviez relatés, je crois, une partie de ces souvenirs en feuilleton dans La Marseillaise, qui était un journal des Français libres à Londres en 1942. Mais vous estimez que vous n'aviez pas pu, à l'époque, tout raconter, bien sûr.
Non, non, pour des raisons de prudence vis-à-vis d'un allié nouveau, j'avais gommé tout ce qui concernait notre séjour en Union soviétique, qui avait été quelque peu rude.
Vous saluez aussi dans cet ouvrage le courage des Polonais.
Admirable. Admirables Polonais que nous avons connus, pour certains d'entre nous, sous l'occupation allemande avant les évasions, et qui ont toujours évadé les évadés français, les ont guidés, les ont accueillis, jamais les ont dénoncés. Et d'autre part, nous avons connu dans les geôles soviétiques, et en particulier à la prison Loubianka à Moscou, des Polonais, dont certains de haut grade, généraux, amiraux, ministres, pensant que nous ne resterions pas indéfiniment, vu la singularité de notre cas, qui nous ont fait leurs confidents et leurs messagers vers le monde libre, de sorte que nous avons rapporté de tristes messages de certains d'entre eux.
Avec Jean-Louis Crémieux-Briac, nous évoquons donc cette odyssée des militaires français évadés par l'URSS. Alors, votre camp était donc situé, si j'ai bien compris, en Poméranie, c'est-à-dire plus près de la frontière russe que de la frontière
exactement,
des autres pays.
Exactement, on est à 450 km de la frontière lituanienne.
Tout de même, oui, oui, absolument. Donc vous êtes passé par la Lituanie. Vous étiez tous ensemble ou certains ont pris des chemins différents?
Non, 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 tous ces Français se sont évadés par petits groupes, 1, 2, 3, rarement 4 individuellement. La plupart étaient, il y avait 100 000 Français qui étaient dans les marches de l'Est et en Pologne, proche de la frontière soviétique. Cette frontière était très inégalement surveillée du côté allemand, de sorte que pour quelques-uns, l'évasion était très facile. Du côté lituanien par où je suis passé, au contraire, la frontière était défendue sévèrement. Mais donc, dans la nuit, la neige, ou en nageant au printemps à travers le Naref, 218 Français donc, ont réussi à atteindre l'Union soviétique. En réalité, Il est inimaginable qu'il n'y ait pas eu 3 ou 4 000 évadés, tant la proximité était immédiate, mais la peur qu'instillaient les Allemands à l'égard des Soviétiques, l'espoir d'une libération prochaine, faisait que la plupart des prisonniers de l'époque sont restés inertes.
Alors cette époque, justement, vous vous êtes retrouvé prisonnier en janvier 1941 et vous avez
pu... évadé en URSS.
En oui. URSS, en janvier 1941. 1941, justement.
Oui.
Vous vous êtes retrouvé alors évadé, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez ?
Nous n'avons pas été libres. Aucun d'entre nous n'a été libre un seul jour en Union soviétique. Immédiatement, nous avons été arrêtés. Un bon nombre dénoncés par des Lituaniens qui avaient peur. Et nous avons connu l'antichambre du goulag, c'est-à-dire les prisons insensées de promiscuité, d'horreur des frontières lituaniennes et Pologne occupées. Pour certains d'entre nous ensuite, et moi j'y suis passé aussi, la prison Loubianka à Moscou, où j'ai le triste souvenir d'avoir passé une journée entière dans un placard sans fenêtre, ce qui est à 2000 km de Paris éprouvant.
Oui, certainement, en effet, au moins une claustrophobie terrible. Donc ça, c'est donc le 26 janvier, en effet, vous avez été, j'ai noté, en ayant lu votre livre avec beaucoup d'intérêt et d'attention, vous avez pris donc ce train prison, un train qui comportait des prisonniers entièrement et qui vous a tous conduit vers Moscou dans cette prison de Loubianka, où vous dites que les conditions étaient
ensuite,
terribles.
Ensuite, les Français ont été regroupés dans une autre prison qui était plus... oserais-je dire, confortable, la prison Boutyrki. Et à la suite de leur mauvaise conduite, de leur grève de la faim, qui pouvait être un mauvais exemple si elle se répercutait dans la prison, on nous a évacués sur un camp qui était à un endroit qui s'appelle Kozielsk, où nous avons alors été progressivement tous réunis dans des conditions qui étaient matériellement meilleures. Mais nous ignorions que de ce camp de Kozielsk, 2000 officiers polonais étaient partis quelques mois plus tôt pour trouver la mort dans les champs et la forêt de Katyn.
Voilà. Et vous dites bien que vous n'aviez aucune information sur ce qui s'était passé
dans
ce drame.
Rien, ni sur ce qui se passait en France, ni sur ce qui se passe... À la fin, nous avons eu la Pravda, mais rien sur ce qui se passait en France, ni sur le monde soviétique que nous ne voyions qu'à travers des barbelés.
Parmi ces prisonniers français, il y avait quelques-uns qui étaient communistes, donc qui étaient plutôt favorables au régime qui les enfermait, si je puis dire, et même quelques-uns étaient défenseurs de Staline. Comment viviez-vous cette confrontation avec une si grande différence d'utopie ou d'opinion, je ne sais pas comment
Il y a eu progressivement un antagonisme extrêmement vif entre les plus... véhément d'entre nous et les plus convaincus du groupe communiste. C'est-à-dire une tension qui, quelquefois, conduit presque à des prises aux mains et d'autre part, à des dénonciations par certains communistes aux autorités du camp de... quelques-uns de l'autre groupe, de la majorité, dénoncés comme fascistes ou comme préparant une évasion par tunnel.
Oui, donc on n'avait pas forcément, parce qu'on était prisonnier, la même manière de réagir.
Non.
Jean-Louis Crémieux-Briac, dans votre ouvrage « Prisonnier de la liberté », dont je rappelle qu'il est paru chez Gallimard, donc après ce séjour en prison, il y a eu une deuxième phase qui a été votre envoi à Londres, puisque 186 d'entre vous, vous avez été envoyés à Londres par les autorités russes. Alors, pouvez-vous nous parler de cette
période ? En effet, nous avons choisi, 186 d'entre nous ont choisi de rallier les forces françaises libres. Nous avons été amenés toujours en wagon plombé à Arkhangelsk, d'où on nous a embarqués sur la mer Blanche. Et là, s'est produit un épisode qui, 60 ans après, reste pour moi bouleversant. C'est-à-dire qu'après une heure et demie de navigation dans le brouillard cotonneux de la mer Blanche, nous avons accosté un puissant transport de troupes britanniques, le premier transport de troupes britanniques vers l'URSS. Et quand nous avons accosté le bateau qui devait nous accueillir, qui était chargé, un bateau canadien qui transportait plusieurs unités canadiennes. Nous avons vu au-dessus de nous, nous étions au ras de l'eau, nous avons vu au-dessus de nous à toutes les rambardes de ce bateau qui était très élevé, qui était un ancien paquebot, des soldats canadiens qui se pressaient. Et quand le premier d'entre nous a franchi la passerelle, tout ce paquebot a chanté la Marseillaise, ce qui est vraiment un souvenir
qui reste
extraordinaire.
Très bouleversant. Donc vous arrivez à Londres le 10 septembre 1941. Qui vous accueille à Londres ?
Nous avons été accueillis.
Que vous aviez été accueillis, je suppose.
Oui, nous avons été accueillis des gares de Londres par les plus hauts collaborateurs du général de Gaulle et dans une atmosphère de fête. Et puis. Nous sommes devenus des Français libres, tous en uniforme, battle dress, et chacun est parti selon sa destinée et son affectation. Quelques-uns étaient à Birakem moins de 6 mois plus tard.
Et vous-même, où avez-vous été envoyé ?
Moi, je n'ai pas été envoyé. J'ai été à Londres affecté. Considérant que je savais écrire, vu que j'avais été enseignant, jeune et tout jeune enseignant, on m'a chargé d'être le secrétaire du comité exécutif de la propagande de la France libre et d'autre part chef du service de diffusion clandestine, c'est-à-dire des responsabilités qui n'étaient ni de mon âge ni de mon grade, mais qui m'ont placé à un poste d'observation extraordinaire, car je me suis trouvé vraiment au carrefour de la propagande, de l'action clandestine, la rencontre de tous les chefs de la résistance qui venaient clandestinement de France à Londres.
Et quand la libération est arrivée, avez-vous eu des opportunités de retrouver ces 218 prisonniers, bien que 32 étaient restés en URSS, mais en tout cas les autres,
les 186,
fondé quelque chose ensemble ?
Absolument, les 186 qui s'étaient ralliés à la France libre sont restés très unis, bien que dispersés à travers la France, et unis en particulier grâce à l'autorité du général Billotte, capitaine lors de l'évasion, devenu général et un des libérateurs de Paris, et de même du lieutenant de Boissieu, devenu aujourd'hui général de corps d'armée et qui a épousé après la guerre la fille Elisabeth de Gaulle, la fille du général de Gaulle. Nous sommes donc restés très, très unis, une espèce d'amicale, très solidaire.
Au point de vue de la méthode de votre ouvrage « Prisonnier de la liberté », donc il est constitué de souvenirs, mais aussi de témoignages que vous avez dû aller recueillir après, longtemps après, ou comment avez-vous constitué ? Parce que la lecture de ce livre se fait extrêmement facilement, je trouve qu'il y a un bon travail.
Je me suis efforcé d'appliquer la méthode historique la plus rigoureuse, parce que je sais par expérience combien le temps déforme, embellit les souvenirs et nos propres rencontres entre ces 186 évadés, les conversations que nous avions entre eux, aurait facilement abouti à créer dans notre esprit une espèce de légende embellissant les événements. De sorte que je me suis refusé à jouer ce jeu. Et j'ai donc, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une part retrouvé une chronologie que j'avais établie et quelques souvenirs sur un carnet que j'ai miraculeusement retrouvé, qui me donnait le fil conducteur sûr. Quelques-uns de nos camarades avait écrit des souvenirs immédiatement après la guerre ou avant même la fin de la guerre. Donc cela était valable et me les ont communiqués. Et puis d'autre part, j'ai eu ces documents soviétiques qui sont extraordinaires, car tout ce qui se passait, tout ce que nous faisions était enregistré par des espions parmi nous, par le commandant du camp, transmis aux plus hautes autorités jusqu'au ministre de l'Intérieur, Beria. Et quand nous avons fait les grèves de la faim, c'est un envoyé personnel de Beria, directeur des camps pour prisonniers de guerre, qui est venu discuter avec nous.
tous ces documents extraordinaires, ces souvenirs, cette expérience que vous avez vécue. Vous le racontez, Jean-Louis Crémieux-Briac, dans « Prisonnier de la liberté », l'odyssée des 218 évadés par l'URSS, dans la collection Gallimard Témoins. Monsieur Crémieux-Briac, je vous remercie. J'espère avoir l'opportunité de vous recevoir à nouveau sur Canal Academy. Et je souligne encore une fois que votre ouvrage, très apprécié par nos académiciens, a reçu le prix Eugène Salvant. Merci, monsieur.
Merci, madame. Thank you.